Bonjour et bienvenue sur Le Must, le podcast qui parle d'excellence. Connaissez-vous le luxe expérientiel? Celui qui permet de délivrer une prestation ultra personnalisée et donc de pouvoir beaucoup mieux fidéliser sa clientèle. Afin de comprendre ce qu'est ce luxe expérientiel et surtout comment peut-on créer l'enchantement à travers le service, mon invité n'est autre que Monsieur Maxime Blo, consultant, formateur, conférencier, coach. Il se définit comme un artisan hôtelier. Il nous dira d'ailleurs avec ses propres mots pourquoi le mot artisan est important à ses yeux. Ses années d'expérience dans les plus grands palaces et hôtels 5 étoiles parisiens tels le Royal Monceau, le Peninsula Hotel ou encore l'Hôtel de Berry lui ont permis d'acquérir une grande expertise sur les nouvelles attentes de la clientèle luxe et l'excellence de service. Pour transmettre sa passion et son expertise, Maxime Blo a créé son entreprise de conseil et formation Hospitality Insiders. Il y aide ses clients à magnifier le service et créer des expériences uniques. Vous pouvez d'ailleurs contacter Maxime sur son site hospitalityinsiders.net et le découvrir à travers son podcast qui parle de l'excellence de service. Savoir-faire, management, intelligence émotionnelle, body language, passion, expérience collaborateur, RSE, le panel de sujets abordés est très large. Monsieur Maxime Blo nous transporte au royaume du luxe expérientiel où le service est roi et où l'émotion est reine. Si vous appréciez cette conversation, je vous invite à la partager autour de vous. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Maxime.
Bonjour Sophie.
Si je te dis luxe, pour toi, à quoi est-ce que tu vas penser immédiatement?
C'est une question compliquée pour attaquer cet entretien, puisque le luxe, il a vraiment de multiples définitions. Je crois que j'ai arrêté de chercher la meilleure. En tout cas, je vais te donner celle qui pour moi, est la plus représentative. C'est le luxe, c'est l'émotion. Le luxe, c'est l'émotion, et l'émotion, c'est le luxe. C'est extrêmement subjectif. Et en fait, j'ai un petit problème, une petite culpabilité avec le luxe. Je trouve qu'il peut être interprété tellement de façons et il est parfois tellement mal connoté que c'est un terme que j'ai du mal à employer. Pourtant, tu le sais, je travaille dans le luxe. C'est mon environnement depuis une dizaine d'années. Mais c'est un terme qu'à titre personnel, j'aime assez peu utiliser. Voilà, pour les raisons que je viens de t'évoquer, notamment la connotation que ça peut avoir quand on parle de luxe.
Est-ce que justement tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et qu'est-ce qui t'a amené dans ce milieu que l'on qualifiera tout de même de luxe?
Bien sûr, il faut quand même donner une étiquette. Je m'appelle Maxime Blo, je me présente souvent comme un artisan hôtelier, car je trouve que c'est ce qui me représente le plus. Artisan, en fait, c'est à l'opposé du terme industriel, car ce que je propose dans mon travail, je le crée avec mes propres moyens, qui sont artisanaux, et c'est toujours du sur-mesure, jamais standardisé. Et il y a aussi, je trouve, chez l'artisan, une notion de maîtrise d'un savoir-faire. On imagine mal, par exemple, un ébéniste devenir bon dans son métier sans répéter inlassablement les mêmes gestes pour se perfectionner. Donc de la même manière, l'artisan hôtelier et l'artisan dans le service, il développe son excellence de service pour devenir un maître de l'hospitalité. Donc voilà une quinzaine d'années que je suis dans l'hôtellerie, et tu l'as compris, l'hôtellerie de luxe. J'ai commencé avec l'école hôtelière à Grenoble, où je me suis rapidement spécialisé sur la partie hébergement, donc toute la partie hôtel plus que restaurant. Et avec un bac et un BTS, j'ai ensuite pris une licence et un master à Chambéry. Il y a un très bon IAE, l'IAE Savoie-Mont-Blanc, qui fait une formation spécialisée marketing et management hôtelier, avec, dans le cadre de mon Master 2, une spécialisation en revenu management. Je pense que tu connais bien cette spécialité, puisque c'est un petit peu ton métier.
Ça me parle.
J'imagine. Et de là, j'ai commencé ma vraie vie professionnelle, après déjà avoir fait, bien sûr, divers stages, saisons d'été. Et j'ai commencé avec le Royal Monceau, qui était en fait ma transition entre la fin de la vie scolaire et le début de la vie professionnelle. C'était le stage de fin de master. Le Royal Monceau qui, à l'époque où j'y étais, en 2013, devenait un palace. Donc c'était vraiment une belle chance pour moi d'y être à cette époque-là. Et du Royal Monceau, j'ai évolué principalement sur le marché parisien, d'hôtel en hôtel. avec notamment en 2014, j'ai eu la grande chance de faire l'ouverture du Peninsula, qui est un groupe asiatique de Hong Kong et qui est devenu ensuite également un palace. Donc j'ai fait la pré-ouverture puis l'ouverture et j'y ai travaillé pendant 5 années avant d'arriver à ma toute dernière maison, l'hôtel de Berry. Donc là, complètement différent, beaucoup plus à taille humaine, un 75 chambres, propriétaire français mais groupe international puisque c'est Marriott, donc, le plus gros groupe hôtelier au monde. Et donc vraiment une expérience très différente. Et en parallèle de ça, depuis 1 an et demi, j'ai lancé ma propre structure donc, qui s'appelle Hospitality Insiders, dans laquelle je fais du conseil et de la formation en management hôtelier de luxe. Mais je pense qu'on reviendra un petit peu sur cette partie un peu plus tard, si tu le souhaites.
Oui, volontiers. Et justement, en fait, j'ai souhaité avoir cette conversation avec toi puisque tu es artisan, en tout cas dans le milieu du luxe. Tu as acquis toute cette expertise, comme tu disais, ce savoir-faire, ce savoir-être et ce savoir-dire. Mais plus précisément, j'aimerais qu'on aborde avec toi ce que tu qualifies de luxe expérientiel. Est-ce que tu peux nous expliquer, sachant que tu as fait un TEDx où tu as en fait expliqué ce qu'était le luxe expérientiel, est-ce que tu peux nous expliquer à travers ce podcast ce qu'il en est ?
Oui, bien sûr. Autre question challenging. Le luxe expérientiel, alors c'est pas du tout un concept qui est nouveau, hein. C'est avant tout un concept marketing qui met l'expérience au centre de tout dans un objectif de fidéliser le client. Finalement, c'est un levier de fidélisation. Pour moi, le luxe expérientiel, c'est d'abord un parcours client au travers duquel on lui fait vivre des expériences qui vont lui procurer des émotions. Donc c'est ça que j'ai essayé de raconter, tu parlais de mon TEDx, en fait pendant donc une dizaine de minutes à l'oral, j'essayais vraiment de raconter un voyage dans lequel on voit des clients qui vivent leur parcours, et en fait à travers le regard finalement du réceptionniste, c'est un peu moins commun, et comment est-ce que ça peut se matérialiser. Donc ce luxe expérientiel, il est souvent opposé au luxe matériel, on parlait de définition en première partie, luxe matériel, parfois appelé ostentatoire. En réalité, ce qu'il faut déjà bien comprendre dans le milieu de l'hospitalité, c'est deux luxes qui se rejoignent. On a rarement un luxe expérientiel, on n'a même jamais, je pense, un luxe expérientiel sans luxe matériel. Je te prends un exemple, un dîner gastronomique dans un grand restaurant. Difficile d'imaginer une expérience d'excellence, une expérience de luxe expérientiel sans un magnifique lieu qui soit chargé d'histoire, une vaisselle incroyable, des verres baccarat, dans l'assiette, des produits qui sont de grande qualité, et en plus avec un travail d'un artisan chef cuisinier qui soit allé en fait, transformer le produit pour le magnifier, et tout ça enveloppé dans un service par le maître d'hôtel qui va s'occuper de toi, par le sommelier qui va te proposer un accord mets et vins complètement en adéquation pour bah, finalement faire encore plus vibrer ton palais. Donc il y a vraiment tout ce côté un peu orchestral dans lequel il y a à la fois des produits d'excellence, des produits d'exception même on peut dire, et un service d'excellence par des personnes que je nomme artisans pour reprendre ce terme, mais qui sont donc des grands professionnels, finalement des experts qui viennent sublimer l'expérience et finalement te prodiguer un sentiment, une émotion qui va devenir incroyable. C'est souvent le cas, en tout cas moi c'est comme ça que ça m'impacte. Quand je vais dans un restaurant gastronomique, ça m'arrive malheureusement pas tous les jours, mais je ressors toujours chargé d'une émotion de « waouh, j'ai vécu quelque chose vraiment d'incroyable ». Et quelques années après, ce dont je me souviens, c'est pas nécessairement du goût de ce que j'avais mangé, j'ai pas forcément la mémoire du goût, par contre je vais me rappeler de la personne qui m'a servi, peut-être pas forcément de son prénom d'ailleurs, mais en tout cas de l'émotion que j'avais et de l'attitude qu'elle avait, de ce qu'elle a pu me transposer à travers son expérience. Et voilà, luxe expérientiel, en tout cas sur mon credo des opérations, c'est justement de le regarder à travers la partie opérationnelle et beaucoup moins la partie marketing. Et pour tes auditeurs qui sont moins habitués à ce vocabulaire, quand je dis les opérations, ce que je veux dire en fait, c'est les départements opérationnels, donc hébergement ou la restauration dans le cas de cet exemple, qui sont des départements terrain, contrairement au marketing ou aux ressources humaines, par exemple, qui sont des départements plus administratifs et du coup moins opérationnels. Voilà, l'objectif, c'est d'intervenir auprès de ces hommes et de ces femmes qui composent ces équipes opérationnelles et de les former pour qu'elles puissent prodiguer un service d'excellence. En tout cas, ça, c'est ce que je fais sur ma partie formateur. Mais voilà, ce luxe expérientiel, il est très, encore une fois, impalpable et très intangible. Mais je pense que l'exemple du dîner gastronomique, c'est une bonne... c'est une bonne démonstration de ce que peut être un luxe expérientiel.
C'est vrai que bon, même si on ne va pas effectivement tous les jours dans des restaurants gastronomiques, on peut expérimenter, et notamment en France, on a cette richesse-là d'avoir tout de même un haut niveau de service, hein, de service d'excellence. Et en fait, moi, ça me fait penser que ce luxe expérientiel, l'objectif, c'est en fait d'ancrer ces moments-là dans la mémoire, et en fait ça crée véritablement ce qu'on peut appeler des Madeleines de Proust, que l'on peut refaire vivre plus tard.
Ce sont toutes ces émotions en fait qui vont créer des souvenirs après.
Exactement. Et tu nous parles de service d'excellence. En fait, l'objectif de ce podcast, c'est de comprendre de quelle manière on arrive à délivrer un service dit d'excellence, puisque on sait que ça va vraiment dans les moindres détails, rien n'est à négliger, et en fait il faut minimiser au maximum l'erreur ou les faux pas. De quelle manière est-ce que le service d'excellence, il se traduit? Qu'est-ce qui pour toi est vraiment important? Qu'est-ce que tu enseignes, si on peut dire, à tes équipes? En priorité, notamment aux jeunes qui débutent, pour qu'ils acquièrent ce niveau et qu'ils le maintiennent dans le temps?
Alors, le service d'excellence, je pense que tu l'auras compris à travers ce que je viens de dire, c'est évidemment un élément incontournable du luxe expérientiel. Je précise qu'on parle ici d'excellence de service dans l'hôtellerie-restauration, parce qu'encore une fois, c'est mon expertise, ma spécialité, mais c'est quelque chose qui s'applique à tous les domaines de service, notamment ceux qui font du luxe, donc... une boutique de luxe par exemple, ou encore dans l'accueil d'un salon VIP. Pour arriver à ce niveau d'excellence de service, il y a plusieurs éléments incontournables. Il y a d'abord un savoir-faire. Donc ça, je pense que ça transpire bien quand on parle d'artisanat, c'est la maîtrise d'un savoir-faire. On ne devient pas excellent sans avoir cette répétition presque inlassablement pour maîtriser un geste, pour maîtriser une technique. Et en l'occurrence, encore une fois, c'est extrêmement intangible dans le cadre du service, dans le cadre de l'hospitalité, mais ça se travaille aussi. Et il y a l'autre partie qui est le savoir-être. En anglais, c'est plus facile dans les catégories entre soft skills et hard skills. En français, on fait un peu une différence avec des savoir-être, savoir-dire et autres. Mais d'une manière générale, c'est plus lié à la personnalité, pour un petit peu le caricaturer. C'est la personnalité de chacun qui va faire aussi que l'émotion va être unique, parce qu'en fait, si moi je te fais un service et que mon voisin d'à côté te procure le même service, en fait il sera pas exactement pareil, il sera personnalisé en fonction de lui, ses traits de caractère, en fonction de comment, de ses expériences, de comment est-ce qu'il s'est développé. Et l'objectif, c'est, quand on forme une personne, à la fois de lui donner les éléments techniques pour qu'il puisse s'améliorer, et également de travailler sur sa partie personnalité pour la magnifier, pour la développer au maximum, et développer notamment sa capacité d'écoute, son empathie, sa capacité à négocier, résoudre un conflit par exemple. Et tout ça, ça se travaille avec énormément de temps. C'est vraiment du détail, on corrige point par point et jour après jour. Ça se passe pas en quelques minutes avec un déclic et on règle tout. Et c'est pour ça que c'est un processus extrêmement long qui demande des années de pratique pour devenir un artisan hôtelier, pour devenir un expert en excellence de service. Et voilà, moi, c'est ça aussi que j'essaie de transmettre à mes équipes et aux personnes que je forme dans mon métier de tous les jours.
Oui, parce qu'en fait, il ne s'agit pas non plus de gommer les personnalités de chacun. On est tous différents. Et en fait, c'est ça aussi la richesse de se dire, voilà, tel serveur aura un service de telle manière. Après, il y a des standards qui vont se retrouver, évidemment. Mais chacun doit développer sa personnalité.
Oui, là-dessus, tout à fait, il y avait un point que je voulais aborder. C'était qu'il y a quelques années encore, c'était une tendance dans le luxe, dans les hôtels de luxe, notamment dans les palaces, d'être très standardisé. On essaie de mettre un haut standing, même si les deux termes sont un petit peu différents, et parfois justement de gommer les personnalités. Ça a beaucoup changé, mais je te donne un exemple. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on interdisait partout d'avoir une barbe. Moi, c'était quelque chose qui était inenvisageable pour moi. Et au fur et à mesure, les établissements ont compris qu'en fait, il ne s'agissait pas de juste avoir toutes les personnalités qui se ressemblent, d'avoir tous les employés qui aient le même costume, la même coiffure et la même façon de parler, mais que dans un cadre, donc avec un certain, ce qu'on appelle le grooming, donc avec une certaine élégance dans la tenue, dans le rasage, aussi de garder les personnalités. Et bien sûr qu'on va enseigner un code, un usage, des étiquettes de langage à utiliser, mais pour autant, chacun doit parler à sa manière, puisqu'encore une fois, c'est ça qui fait la démarcation d'une personne à l'autre, et c'est pour ça que finalement, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Autrement, on aurait des robots derrière des desks dans les palaces, et c'est clairement pas ce qu'on cherche. En tout cas, aujourd'hui, l'hôtelier l'a bien compris, et il a amorcé ce virage, en tout cas dans les palaces que j'ai pu côtoyer professionnellement. Le virage est clairement bien amorcé.
Et je dirais, j'irais même un peu plus loin dans la mesure où effectivement on se rend compte que la clientèle, enfin la société change tout simplement. Il y a peut-être un peu plus de tolérance sur certains points et on a envie de voir ces personnalités-là. On a envie de voir l'âme de l'hôtel et les âmes de chaque employé. Donc effectivement, il n'y a pas de robot, ce n'est pas non plus un milieu militaire, même si il y a la ponctualité, il y a un uniforme, etc.
On nous compare quand même très souvent au monde militaire, parce que c'est vrai que c'est un environnement que tu connais également, mais il y a beaucoup de rigueur, une rigueur militaire. Il y a une hiérarchie qui est très importante dans l'hôtellerie, notamment de luxe. Entre les premiers échelons jusqu'à la direction, il peut y avoir 5 à 10 étages de hiérarchie, donc ça fait vraiment beaucoup. Ça a tendance un petit peu à s'assouplir. On n'est pas non plus à l'environnement start-up à l'horizontale, mais je pense que ça va venir aussi. Voilà, il faut savoir que l'hôtellerie, c'est une vieille machine hein, qui existe depuis des siècles et des siècles, donc elle met un petit peu de temps à se moderniser, à se dépoussiérer, et moi, mon rôle, c'est justement aussi d'y participer en formant les équipes, en étant là auprès des directions pour les accompagner dans cette mouvance-là et qui, je pense, est non seulement dans la tendance et clairement se pose dans le futur où on remet l'humain au centre de tout avec des fonctionnements beaucoup plus agiles.
Et lorsqu'il y a des remarques à faire, des remarques constructives, toi, par exemple, de quelle manière est-ce que tu vas le faire pour tes équipes ? Est-ce que c'est vraiment à l'instant où tu te rends compte que ça aurait pu être soit mieux dit ou mieux fait ? Ou alors tu attends un petit peu, tu vois comment la personne réagit et ensuite, en fin de journée, il y a un débriefing ?
Tout dépend. Je pense que chaque cas est spécifique. Ça va dépendre, de la situation. Est-ce que il y a besoin d'agir immédiatement pour corriger et tout de suite résoudre le problème aussi, notamment si ça implique un client qui est en train de faire son départ, par exemple, il y a une énorme erreur du réceptionniste au moment de la facturation, quel cas ça implique d'agir, on commence par un peu éteindre l'incendie. Parfois, on va débriefer tout de suite la personne parce qu'il y a besoin aussi pour qu'elle puisse avancer. D'autres fois, et en fonction aussi de son profil, est-ce que la personne elle est prête à entendre le retour qu'on va lui faire, le feedback pour pouvoir avancer, ou, et moi j'aime beaucoup ça aussi, on laisse un petit peu redescendre la pression, et en fin de journée, on prend un peu de temps ensemble, et on discute, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ça, comment est-ce que tu aurais pu mieux faire, et également que ça serve non pas seulement à la personne qui a pu faire l'erreur, mais si possible à tout le monde, donc après de réutiliser ces informations-là dans le briefing de la journée suivante pour les équipes, on a eu telle erreur avec tel client, il s'est passé telle plainte, il a été rencontré, voilà comment est-ce que ça s'est solutionné, et pour la prochaine fois, on met en place tel process, on met en place telle formation pour s'assurer finalement que les équipes soient dans ce système d'amélioration continue qui est absolument essentiel, en sachant qu'on sera jamais parfait, on est toujours avec de l'humain, il y aura toujours des erreurs, mais avec le temps et ce travail continu, on minimise les risques d'erreurs et on s'assure que notre personnel il monte constamment en compétences.
Et c'est intéressant parce qu'en fait, tu as posé des questions ouvertes.
Je ne l'ai pas fait exprès en te le disant, mais tout à fait, c'est quelque chose qui est important. C'est en effet de faire réfléchir la personne. Il faut aussi qu'elle se développe toute seule. Encore une fois, on n'est pas là pour pour les assister dans le management, enfin aussi bien le manager que le formateur, que le coach, finalement, il est là pour accompagner, il est là pour donner des éléments de réponse, donner des outils d'amélioration, mais c'est à la personne formée, employée, de se développer elle-même. Et c'est que quand elle, elle aura appris à appréhender ces outils, qu'elle les maîtrisera au mieux et qu'elle-même, elle deviendra un bon manager, dirigeant ou peu importe ce qu'elle souhaite être.
Est-ce que pour toi, depuis que tu as commencé à travailler avec les hôtels de luxe, tu as évolué sur certains points, que ce soit au niveau du management, au niveau de ton discours, ta façon de faire avec les clients ou avec tes collègues?
Je pense que mon management, il a évolué sans cesse depuis que j'ai commencé ce métier. Et je pense j'espère qu'il continuera d'évoluer jusqu'à la fin de ma carrière. Encore une fois, c'est de l'amélioration continue. C'est pas juste valable pour ceux qui débutent le métier, c'est aussi valable pour les autres. Quand je suis sorti d'école hôtelière, j'étais très formaté à ce qu'on m'avait enseigné. J'avais un peu du contenu brut que j'ai essayé de réappliquer. Et au fur et à mesure, ce contenu brut, on le taille à sa façon, on le modernise, on l'assouplit, on s'améliore, on corrige. Parfois, on est obligé de faire un pas en arrière, on se rend compte qu'on s'est complètement planté. Voilà, l'important, c'est chaque jour de se remettre en question, de regarder ce qui n'a pas très bien marché, mais aussi ce qui a bien marché et qu'on peut perpétuer, et d'avoir ce process continu d'avancer. On avance bien sûr tout seul avec cette remise en question, mais aussi en se challengeant. Quand on est dans une entreprise via ses managers, mais également ses subordonnés qui viennent te challenger tous les jours parce qu'ils te posent des nouvelles questions, il y a des nouvelles générations qui arrivent, il faut pouvoir leur répondre. Donc voilà, je pense que mon management 2020 ou 2021 n'a rien à voir avec mon management 2015, et je pense encore une fois que dans 10 ans, il sera, en tout cas j'espère de mon point de vue, qu'il sera encore meilleur. C'est l'objectif finalement.
Et est-ce que tu as quelque chose où tu te dis, mais finalement, si on me l'avait dit plus tôt, j'aurais peut-être gagné du temps là-dessus, j'aurais ouvert les yeux sur telle chose et j'aurais agi différemment? Est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir ces leçons un peu plus tôt? Et si oui, lesquelles?
Il y a plein de choses que j'aurais aimé qu'on me chuchote à l'oreille quelques années plus tôt, et c'est pour ça aujourd'hui, tu le sais que moi je partage tout ce contenu, que ce soit sur mon podcast, en vidéo, ou sur mes différents réseaux et articles. C'est que justement, je me dis, si j'étais étudiant aujourd'hui, j'aimerais qu'on me donne tout ça, et moi il y a 15 ans, j'aurais aimé rencontrer des professionnels qui me disent, en fait prépare-toi, la vie scolaire, c'est que le début de l'apprentissage. J'avais, et c'était vraiment imprégné en moi, j'étais persuadé qu'à la fin de l'école, et c'est pour ça que j'ai voulu aller jusqu'au master, ça se terminait. Après, c'était la vie professionnelle et qu'il n'y avait plus d'apprentissage. Et en fait, j'ai autant, voire plus appris dans ma vie professionnelle, et je dirais même plus en dehors de ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, parce qu'on a des outils, on a Internet, on a un accès à un contenu qui est illimité aujourd'hui, et donc j'ai continué de m'enrichir constamment et finalement de m'améliorer. Et moi, quand je rencontre des élèves en conférence ou en cours dans les écoles, je leur dis, mais n'attendez pas qu'on vienne vous nourrir. En fait, n'attendez pas comme un petit oisillon avec le bec ouvert. Allez chercher le contenu. Aujourd'hui, vous avez zéro excuse pour pas aller consommer sur YouTube, sur LinkedIn, sur des blogs. Abonnez-vous à des personnes qui vous inspirent et vous verrez, elles ont plein, plein, plein de choses à vous partager. Donc, ça, ce serait vraiment mon conseil à tous pour gagner du temps. Et moi, je continue de me l'appliquer aujourd'hui. Et notamment à travers le podcast, je fais énormément de rencontres et de découvertes de personnes qui sont passionnantes et inspirantes.
Alors, je vais faire un petit peu de teasing. En fin de conversation, je te demanderai quelles sont, toi, les recommandations de podcast ou livre. Mais est-ce que tu pourrais déjà nous dire, dès à présent, le nom de ton podcast, sur quelle plateforme on peut le trouver, et donc ton site qui est Hospitality Insiders?
Oui, tout à fait. Alors, de manière très compliquée, le podcast s'appelle comme l'entreprise Hospitality Insiders. Donc, sur mon site hospitalityinsiders.net, il y a toutes les informations, il y a mes épisodes de podcast qui sont hébergés là-dessus. Ensuite, on peut me retrouver sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. C'est un peu le début de la création de podcast, mais j'ai envie de continuer de pouvoir rencontrer des personnalités. Et comme je vois tout ce que j'apprends à chaque fois, ben j'espère que mes auditeurs, comme les tiens d'ailleurs, continueront à travers tout ça d'évoluer et d'apprendre aussi.
Et sur le podcast, quels sont les invités que tu as ?
C'est un podcast sur l'excellence de service. Donc, on va retrouver tout type d'invités autour du service, de près ou de loin. Donc, ça part d'un chef sommelier, Xavier Tuisa au Crillon, qui était mon premier épisode, à un professionnel du tourisme. Très bientôt, il y aura un directeur marketing d'un grand groupe, un autre consultant formateur qui me donne sa vision. Voilà. Et l'objectif, c'est que plus on va avancer dans le temps, plus on va découvrir d'autres facettes de l'excellence de service, d'autres conseils, d'autres visions. Et j'ai vraiment envie d'être le plus exhaustif possible en passant un petit peu... C'est pas juste une découverte de métier, mais c'est plutôt une découverte des aspects de l'excellence de service et pas que dans l'hôtellerie-restauration. Ça, c'est très important pour moi. C'est que je viens certes de ce milieu, mais pour autant, je pense qu'il y a plein de bons exemples à prendre ailleurs. Et inversement, les autres environnements ont beaucoup à s'inspirer aussi de l'hôtellerie-restauration. Donc le but, c'est de partager tous ces contenus.
Très bien. Alors, j'ai un petit peu dérivé avec toutes mes questions. On va revenir sur la partie luxe expérientiel, puisque j'avais encore, en tout cas, des interrogations à ce sujet, notamment sur la gestion des clients. On va délivrer un service, les clients sont satisfaits. Je dirais que c'est la partie, entre guillemets, facile, même si elle ne l'est pas. Mais la partie encore plus difficile, en tout cas, c'est celle de gérer les potentielles plaintes ou insatisfactions des clients. Ces situations-là, en tout cas, elles requièrent beaucoup plus de tact, beaucoup plus de gestion humaine. Est-ce que justement, là-dessus, sur ces situations spécifiques, est-ce que tu peux nous dire de quelle manière, en fait, là, l'excellence du service va être à son summum révélée ?
Oui. Tout à fait. La gestion de plainte, c'est vraiment un aspect très spécifique. Moi, c'est presque ma partie préférée. Quand j'étais en entreprise, souvent, quand il y avait une plainte, on m'envoyait tout de suite dessus parce que moi, j'aimais beaucoup rencontrer le client, en fait, comprendre son point de douleur, comprendre d'où venait le problème et si possible, après, le résoudre. Je pense que ce qui fait une bonne résolution de conflit, c'est d'abord beaucoup d'écoute, de la sincérité et de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que quand on va vers une personne, il faut sincèrement avoir envie de la comprendre et avoir, au-delà même des mots qu'on va choisir, qui sont évidemment importants, la bonne attitude, c'est ce qu'on appelle le body language, tout le non-verbal. En fait, le verbal, il représente qu'une partie assez infime du discours. C'est toute la posture qui dit le reste. Si je te tiens un discours dans lequel je dis « Bien sûr, vous avez raison, monsieur, mais que je reste debout droit sur mon comptoir avec à moitié accoudé dessus », tu peux être sûr que le client en face, qui était déjà a priori en colère, il va exploser. Si au contraire, j'arrive un peu courbé, que je le regarde plus ou moins dans les yeux aussi en fonction de sa culture pour ne pas le froisser, que je lui montre à quel point je partage de manière empathique son ressenti, que je suis encore plus gêné que lui l'est de par la situation, peu importe la situation. Là, tout de suite, on arrive sur un terrain beaucoup plus neutre où on va pouvoir échanger, où on va pouvoir discuter sincèrement, s'installer et pourquoi pas trouver des compensations. Mais en fait, dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin de compensation. Il s'agit d'abord d'échanger sincèrement. On s'installe autour d'un café, on s'écoute, on se raconte... Les problématiques, et en fait, en discutant, on réalise que finalement, la solution, elle est déjà là, et le client, il repart calmé, il a l'impression qu'il était pris au plus haut niveau, et finalement, il est adouci, puisqu'il nous fait presque le privilège de venir partager quelque chose. Hein. Je rappelle qu'un client qui, c'est ce que je dis toujours en formation, un client qui vient se plaindre, c'est autant d'opportunités de le transformer en un client fidèle. Le pire, ce serait qu'il ne vous dise rien, qu'il parte chez lui et que tout autour de lui, il répète à quel point votre établissement est insupportable. Pire que sur les réseaux sociaux, il vous jette des pierres sans vous donner l'occasion de vous excuser ou de lui trouver une quelconque explication ou compensation. Là, il fait l'honneur de venir voir le personnel. Donc la moindre des choses, c'est de le recevoir, de l'écouter. Et ensuite, quand c'est nécessaire, on trouve des solutions. Mais là encore... Évidemment, il y a des cas exceptionnels, mais très souvent, on trouve la bonne solution au bon client.
Et est-ce que tu as d'autres astuces à nous donner en termes de comportement ou par exemple comment poser sa voix pour justement permettre en tout cas aux personnes qui sont face à cette situation, soit d'inconfort ou d'insatisfaction, de pouvoir se calmer et que chacun en fait puisse véritablement s'écouter?
Il y a plein de méthodes et c'est une formation entière là. La gestion de plainte, je disais, moi, je l'aime beaucoup vraiment celle-ci. Tu parlais le regard, en effet, un regard sincère, un regard franc. Je disais dans les yeux, mais pas forcément parce que, voilà, par rapport à certaines cultures asiatiques, si on est avec une clientèle Moyen-Orient de confession musulmane, en tant qu'homme, je ne vais jamais regarder la femme dans les yeux si monsieur est là. Donc, voilà, je nuance un petit peu tout ça, mais de manière générale, je regarde la personne franchement, isoler aussi la plainte, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui se met à hurler au milieu d'autres clients dans un lobby. Non seulement ça fait très mauvaise presse pour les autres clients, mais en plus, ça va lui donner encore plus envie de crier, donc on l'isole. Je parlais d'un café, hein, il ne s'agit pas d'interpeller la sécurité et de l'embarquer dans une salle insonorisée, c'est vraiment, on va s'installer, on discute, on s'assied, je vous propose quelque chose à boire et vraiment, et là vous m'exprimez tout ce que vous avez à me dire. Ensuite, c'est l'écouter jusqu'au bout, écouter tout ce qu'il a à me dire, et peut-être ce qu'il n'avait pas forcément l'intention de me dire, mais qu'il faut que je comprenne, et aussi écouter ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire que dans une plainte, il y a la partie émergée de l'iceberg, et puis il y a tout le reste. Peut-être que ce client qui se plaint, en fait, il a eu une accumulation de plein d'autres choses, peut-être qu'il a eu une mauvaise journée, que ça n'a rien à voir avec l'hôtel, mais il faut que je comprenne aussi dans quel état émotionnel il est. Donc là encore, il faut avoir cette empathie pour comprendre ça. Est-ce qu'on est en pleine semaine de la mode à Paris, que j'ai un client de Fashion Week qui a un défilé le lendemain et qui rentre et qui, admettons, la chambre n'a pas été faite et qui reçoit des invités dans une... Ça peut paraître anecdotique pour cette personne-là qui vient spécifiquement pour tout un événement. Il faut se mettre dans ses baskets et comprendre à quel point la situation que cette personne vit est catastrophique. Mais une fois qu'on est dans ce même état d'esprit, je disais tout à l'heure, vraiment, les solutions, elles viennent d'elles-mêmes. Et très souvent, la personne, elle comprend et elle se laisse accompagner beaucoup plus facilement que si on était allé dans le frontal. Donc, je dirais un peu ça, c'est se mettre au même niveau, égaliser la relation et ensuite accompagner en proposant des solutions si besoin.
Et c'est vrai que tous les clients ne vont pas forcément aller, en tout cas, à la rencontre des employés pour leur faire part de leurs soucis éventuels. Mais est-ce que toi, tu arrives assez facilement à pouvoir détecter quelqu'un qui serait insatisfait, mais n'oserait pas le dire?
C'était dans un autre contexte, mais ça marche aussi. Tu parlais de la question ouverte tout à l'heure, tu me faisais remarquer ça. Je pose toujours des questions ouvertes et c'est un excellent moyen de savoir au moment du départ, ce qu'on a, donc le fameux check-out, le client passe à la caisse, j'utilise volontairement ces termes, ce langage un peu qui fait penser à l'argent, il vient payer la douloureuse. Tu vois, c'est des moments qui peuvent sembler un petit peu désagréables. Il faut transformer ça comme, au contraire, une expérience agréable qui fait partie de la continuité de l'expérience au sein de l'hôtel. C'est une occasion comme une autre de s'assurer qu'il a passé un bon moment parmi nous, en tout cas comment s'est passé son séjour. Donc, je ne vais pas lui demander de manière automatique en regardant mon ordinateur s'il a passé un bon séjour. Je vais plutôt lui demander comment s'est passé votre séjour parmi nous. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que nous améliorerons pour vous la prochaine fois? Encore une fois, je vais peut-être, si je peux me permettre, prendre du temps avec lui. Si j'étais là depuis le début du séjour, repointer sur sur des moments clés de son séjour, l'anniversaire qu'il a fêté la veille, la bouteille de champagne qu'on avait fait monter en chambre, voilà, pour m'assurer que le client ait reçu tout ce qu'on voulait lui donner et qu'il ait vécu une expérience au plus haut niveau et que s'il y avait des choses qui peut-être étaient imparfaites, que là, il me les partage pour que moi, je puisse les utiliser comme autant de leviers pour ensuite améliorer le service auprès de mes équipes.
Et tu parlais de culture, puisqu'effectivement, notamment en France et à Paris, les touristes du monde entier sont nombreux. Est-ce qu'il y a des faux pas qu'il faut à tout prix éviter? Alors, tu en as mentionné déjà quelques-uns. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viendraient à l'esprit?
Pareil, il y en a plein. Je ne vais pas tous te les faire, mais quand on est face à une clientèle asiatique, japonaise ou chinoise, il y a des manières de donner une carte de visite, on la donne à deux mains. Face à un japonais, il y a une manière de s'incliner. Ça, voilà, c'est des démonstrations de respect et aussi qu'on connaît la culture. Mais une personne un peu novice qui ne connaîtrait pas tous ces points-là, évidemment, ça s'apprend. Encore une fois, il y a des formations, on apprend aussi beaucoup sur le tas. C'est là où l'intelligence émotionnelle rentre beaucoup en jeu, de l'observation. Et en regardant le comportement aussi des personnes qu'on a en face, on apprend et on s'adapte. On peut donner une carte de visite sans respecter la tradition japonaise et pour autant que ce soit bien vu parce qu'encore une fois, le body language, donc le non-verbal, était là, qu'il y avait un sourire et une authenticité. Et inversement, donner une carte de visite en respectant les codes, mais de le faire de manière très robotique et rigide et que le message et l'émotion ne soient pas du tout au rendez-vous. Donc, bien sûr, il y a des codes. Bien sûr, la culture, il faut les connaître. L'avantage dans nos métiers, c'est qu'on les côtoie tous les jours, aussi bien du côté employé que du côté client. Donc, on apprend quand dans votre équipe, vous avez 4 personnes qui viennent du Moyen-Orient, qui parlent arabe et qui ont l'habitude de traiter avec cette clientèle, évidemment, qui sont capables de vous partager les bons conseils. Moi, j'ai plus appris sur les cultures grâce à mes collègues et en observant mes clients qu'en formation pure et dure, où on t'explique un petit peu toutes les spécificités du chinois qui va dormir avec deux lits séparés, etc. C'est des choses qui sont vraies, même si elles ont tendance à changer, ça se mondialise un petit peu, mais c'est beaucoup plus, encore une fois, l'observation et l'intelligence émotionnelle qui vont te permettre de comprendre tout ça.
Et pour ce qui est des langues, alors on sait qu'en hôtellerie, hein, c'est très important d'être multilingue, on dit.
Oui, polyglotte.
Polyglotte, c'est encore mieux, beaucoup mieux même. Est-ce que vous faites à chaque fois l'effort, par exemple, quelqu'un qui est russe et il y a un employé au niveau du front office, de la réception, qui peut s'exprimer en russe, est-ce que vous faites en sorte qu'à l'arrivée de ce client-là, par exemple, l'employé qui puisse s'exprimer dans la même langue soit également présent ?
Bien sûr, ça fait partie du processus aussi de s'adapter aux besoins du client sans qu'il l'ait exprimé nécessairement. Ça peut être un russe qui parle très bien anglais, mais pour autant, quel plaisir. Et imagine si toi, tu vas demain au bout du monde, en Asie, puisqu'on parlait d'Asie, et que là, tu as un client, enfin, un employé français ou au moins francophone qui parle ta langue, même s'il ne parle pas parfaitement la langue, mais qui t'accueille avec des mots auxquels tu es habitué. C'est rassurant. On se sent déjà tout de suite chez soi. Ça montre, et encore une fois, il y a une preuve de démonstration d'authenticité, un vrai côté hospitalité qui ressort. Donc bien sûr, on le fera toujours, si possible avec une personne qui parle la langue de manière native, mais même si ce n'est pas le cas, admettons, si j'ai toujours un japonais qui vient à ma réception, je ne parle pas japonais, en revanche j'ai déjà été au Japon et j'ai travaillé au Peninsula à Tokyo, j'ai appris un peu de vocabulaire là-bas, je vais le ressortir, ça fera toujours son effet, et ça montrera au client à quel point on a envie de l'accueillir.
Maintenant, je vais te poser quelques questions sur la partie recrutement, puisque on se rend compte, hein, il faut quand même déjà un minimum de savoir-faire et de savoir-être, ce qui n'est pas négligeable. On ne part pas de zéro. Quels sont les points d'attention que vous avez en particulier pour vous assurer au maximum que la personne que vous allez recruter sera vraiment à même de délivrer ce service d'excellence ?
Je dirais, au risque d'être un peu répétitif, mais que c'est encore une fois le savoir-être qui va faire la différence. Bien sûr, il y aura un premier tri sur son CV, et généralement quand la personne arrive en entretien, c'est qu'on a déjà identifié d'où elle venait, qu'est-ce qu'elle avait fait, quelles expériences professionnelles elle avait. Donc si elle est là pour un poste spécifique, admettons sur les relations clientèle, évidemment il faut qu'elle ait un background, donc une formation et des expériences qui soient cohérentes. Mais une fois qu'on a passé les questions techniques qui me permettent de confirmer que finalement le candidat il maîtrise tel ou tel point, c'est donc toujours ces qualités douces, les soft skills que je vais chercher à découvrir. Je vais chercher la sincérité, l'authenticité, la loyauté aussi de la personne, la passion. Évidemment, sans elle, tout ce métier, en fait, il perd son sens. On ne fait pas d'accueil client, on ne fait pas d'hospitalité si on n'a pas un vrai amour pour les relations humaines. Donc tout ça se détecte dans un échange. Ce qui est bien, c'est que c'est un échange entre humains, donc quoi de mieux pour détecter l'amour pour les relations humaines qu'à ce moment-là. Donc c'est vraiment tout ça que je vais aller chercher. Est-ce que je vais pouvoir compter sur cette personne-là? Est-ce qu'elle va toujours faire ce travail avec passion, même si, attention, on n'est pas des bisounours, il y a des jours très difficiles, il y a des journées beaucoup plus longues que d'autres, il y a des parfois où on est malade, on vient quand même pour soutenir aussi tous les autres collaborateurs. Néanmoins, quand on a cette passion, ce plaisir à travailler avec de l'humain, aussi bien en tant que client qu'en tant que collaborateur, je pense que le métier devient fun et on y prend beaucoup de plaisir malgré toutes les contraintes qu'il peut y avoir et notamment les horaires.
Et pour les jeunes qui nous écoutent, est-ce que justement tu aurais quelques recommandations lorsqu'ils passent ces entretiens de recrutement? De quelle manière en fait ils peuvent transmettre cette sincérité, cette envie de servir, d'être en contact avec l'humain?
Montrez qui vous êtes. Montrez votre personnalité. Je ne vous dis pas de faire une danse sur la table, mais de montrer ce qu'il y a dans votre personnalité. Les jeunes qui sortent d'école, souvent, ils ont tendance à penser qu'ils n'ont aucune expérience. C'est faux. Ils ont peut-être aucune ou peu d'expérience professionnelle, mais ils ont plein d'expériences de vie qui sont liées à leur culture, qui sont liées à leur caractère, à leur éducation, et qui mettent tout ça en avant. Moi, une personne qui a fait que des stages jusqu'à maintenant, c'est sa première expérience professionnelle en entreprise, mais qui à côté de ça était dans des associations, qui a géré de l'humain, qui est une personne sportive, une personne très certainement rigoureuse ou qui sait se surpasser. Tout ça, c'est des qualités que je vais aller chercher à travers aussi d'autres expériences non professionnelles. Donc, montrer qui vous êtes, l'entretien d'embauche, il sert aussi bien à potentiel collaborateur à démontrer tout ce qu'il a dans le ventre, qu'à l'entreprise aussi de montrer, parce que cet aspect-là dont on a pas parlé, mais de présenter aussi qu'est-ce qu'elle a de spécial, puisqu'aujourd'hui, c'est pas juste un employeur qui choisit un employé, mais c'est aussi un employé qui choisit un employeur. Et tu parlais de jeunes, les générations Z qui arrivent sur le marché sont beaucoup plus exigeantes et intransigeante par rapport à ça. Et donc moi, côté employeur, j'essaye aussi, non pas de juste savoir si la personne en face de moi pourrait matcher, mais aussi de lui donner des éléments pour qu'elle puisse se rendre compte s'il y a match ou pas match finalement. Pour conclure sur ce point-là, on a beaucoup parlé d'expérience client, et je pense que tu le comprends bien, l'humain est au centre de tout ça. Moi, je parle également d'expérience collaborateur. Et tout ça, c'est lié à la culture d'entreprise, à ce qu'on laisse transparaître, en fait, quelle marque employeur on a envie d'être, quel employeur on a envie d'être, quelle valeur on veut transmettre aux personnes qui vont travailler avec nous, pour que finalement, ces employés se retrouvent là-dedans, aient envie de donner le meilleur d'elles-mêmes, et que derrière, ils prennent soin de nos clients. Donc c'est un peu ce vieil adage, prenez soin de vos collaborateurs, ils prennent soin de vos clients, ça n'a jamais été aussi vrai que dans un métier d'accueil et d'hospitalité.
Qu'est-ce que tu penses maintenant pour le luxe expérientiel en termes de perspective? Puisqu'on a vu qu'au préalable, c'était plutôt un luxe matériel, que l'on a évolué vers ce luxe expérientiel qui s'attache beaucoup plus à déclencher en fait des émotions, faire vivre ces émotions-là. Est-ce que tu penses que d'autres types de luxe sont à venir?
Je crois que le luxe expérientiel, c'est un vrai vecteur de différenciation et de fidélisation. Donc, il s'agit pour l'hôtelier, pour l'entreprise qui produit le service, de continuer de s'améliorer dans la création d'expériences sur mesure, dans laquelle, encore une fois, elle implique ses collaborateurs, d'abord ses collaborateurs, avec cette fameuse culture d'entreprise, la personnalité de ses employés, et de créer ensuite des parcours clients qui soit unique. Donc évidemment que ce luxe expérientiel, en tout cas je crois qu'il va grandir dans ce sens-là, et il y a des entreprises qui l'ont déjà très bien compris, d'autres beaucoup moins, mais même s'il prendra peut-être d'autres dénominations, mais le luxe expérientiel, il a pour moi de très beaux jours devant lui dans l'expérience client et l'expérience collaborateur, et tant mieux.
Je vais prendre l'exemple d'un sujet, en tout cas, qu'on peut qualifier de tendance, mais qui, dans tous les cas, va être présent pour les années, voire les décennies à venir, qui est le développement durable. Et c'est un sujet pour lequel on a notamment LVMH qui commence à réaliser un hub, un pôle innovation, afin d'avoir un petit peu plus cet aspect développement durable pris en compte, non seulement dans l'hôtellerie de luxe, mais en fait toutes les différentes branches du luxe. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait que le luxe, c'est un peu tout est possible, rendre même l'impossible possible, ce qui peut aller à l'encontre du développement durable. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce développement, ou en tout cas de cette intégration du développement durable dans le luxe?
Alors déjà, je pense que c'est lié... Là, tu me donnes une définition du luxe, on a vu qu'il y en avait plein, et... ton luxe n'est pas le mien, et donc je pense pas que le luxe soit nécessairement de la consommation à outrance. Je pense que le luxe, et ça, je me bats pour ça, il est parfaitement compatible avec le développement durable. Tu cites LVMH, c'est très bien. Bon, je me méfie un peu des annonces boule à facette aussi des grands groupes, parce que finalement aujourd'hui c'est la tendance, donc on parle de RSE, on parle de développement durable. Je me concentre beaucoup plus sur les actions qui sont mises en place, et évidemment il y en a, beaucoup trop peu encore, mais c'est en place. Je pense que les deux sont compatibles, RSE et luxe, ils seront compatibles parfaitement quand on aura justement revu un petit peu ces définitions et qu'on n'attribuera pas luxe à uniquement consommation, surconsommation j'ai envie de dire, mais le luxe, est-ce que c'est pas aussi respecter les ressources qui sont mises à notre disposition, qui sont limitées, être en parfait accord avec la nature, par exemple pour un établissement, un écologe, admettons, au milieu d'une forêt du Costa Rica, tu vois, il y a plein de manières de vivre le luxe à travers des expériences, et donc la RSE, elle a toute sa place là-dedans, et de toute façon, j'ai envie de dire, si on veut que le luxe continue, si on veut que nos ressources perdurent, il faut qu'on ait cette approche de développement durable, et c'est essentiel même qu'on les mette non pas en opposition, mais qu'on mette d'abord le développement durable tout en haut de la chaîne de réflexion.
Donc le développement durable fera entièrement, ou en tout cas fait déjà un petit peu partie du luxe expérientiel, et cela va s'amplifier.
Complètement, et il en fait déjà partie, encore une fois, pas assez, ça va pas assez vite selon moi, ça n'engage que moi, mais je pense aussi que, et tant mieux, cette génération Z qui arrive, elle est très demandeuse de ça. À défaut d'être, on va dire, radical, mais encore que c'est quand même clairement dans la tendance de refuser de la consommation à outrance et de demander, c'est demander aux marques de luxe qui font des bijoux, qui font de la mode, ça va être demandé de plus en plus aux hôtels. Tu parlais des LVMH, c'est un très bon exemple par rapport à ça. Ils répondent à une demande. En tout cas, c'est une génération qui ne laissera pas passer cette... je peux même plus l'appeler tendance, qui ne laissera plus passer le développement durable, parce qu'ils ont conscience que quand ils seront plus âgés, ils pourront plus profiter des ressources comme les générations d'avant nous en ont profité. Donc c'est un mal nécessaire aujourd'hui de prendre ce virage immédiat, de revoir nos définitions et de trouver des réponses. On a été capable d'en trouver dans plein de choses. La réponse à la crise sanitaire pendant toute l'année dernière est une excellente démonstration. Donc on est capable, on a les moyens dans notre pays et sur notre planète de continuer de fournir de belles expériences tout en respectant la nature et les ressources qu'on a autour de nous. C'est essentiel. Et attention, je minimise pas la RSE, c'est aussi beaucoup plus large. On parle aussi de ressources humaines et plein d'autres choses, mais là je me suis concentré que sur la partie... pur développement durable, sinon on ferait un épisode entier que là-dessus, je pense.
Tu parles de génération Z, mais c'est vrai que ça me fait penser aussi, je pense, cette envie d'avoir une vraie transparence, quelles que soient les entreprises, hein. Là je ne parle pas non que de l'hôtellerie de luxe, pour pouvoir choisir, en fait, faire ses choix tout en connaissance de cause. Et ça, pour moi, ça s'inscrit aussi dans le développement durable, dans la mesure où les gens veulent être conscients de ce qui est fait. Et c'est vrai que l'hôtellerie de luxe, en tout cas, là-dessus, ça va dans ce sens, mais effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Complètement, un énorme travail à faire. On parlait tout à l'heure de marque employeur. Il faut que la personne qui candidate, elle ait une vision claire sur les actions qu'entreprend une entreprise. si demain je dois postuler dans un établissement, c'est la première chose que je regarderai. Voilà, qu'est-ce qu'ils font concrètement dans leur quotidien pour le maintien des ressources, pour le respect de la planète, c'est essentiel. Et les clients ne le regardent peut-être pas systématiquement, mais c'est quelque chose qui, quand les actions sont mises en place dans l'établissement, elles sont appréciées, elles sont rarement reniées. Rarement des clients, en tout cas ça m'est jamais arrivé, qui se plaignent parce qu'il y a des actions pour le développement durable qui ont été mises en place. Ça paraît complètement incohérent. Ils sont pas, enfin, les générations plus anciennes, en tout cas, ne sont pas demandeuses. Néanmoins, elles savent apprécier quand on leur propose le résultat et quelque chose qu'elles puissent en plus recommuniquer via des réseaux sociaux, Instagram par exemple. On a mis telle action sur le recyclage des eaux usées, telle action sur l'utilisation du linge, ne serait-ce que des petites choses, l'utilisation du plastique à usage unique, et ça peut paraître anecdotique, mais ça représente tellement de milliards de dépenses et de gaspillage annuels que finalement, c'est pas si anecdotique que ça.
Et pour toi, Maxime, donc on a vu avec ton site internet, ton podcast, tes interventions aussi auprès d'écoles, ta volonté en fait de transmettre ce service de l'excellence et ces notions en tout cas de luxe expérientiel et de quelle manière et avec quel comportement. Quelles sont tes perspectives pour les années à venir?
Pour moi personnellement, oui. Tu veux dire écoute, j'espère pouvoir grandir avec Hospitality Insiders ou autre d'ailleurs. J'espère pouvoir me rendre utile, c'est essentiel pour moi. Aussi bien auprès des étudiants que de jeunes professionnels, d'apporter du contenu qui soit utilisable, qui soit applicable, qui permette d'améliorer donc cette fameuse expérience client, également cette expérience collaborateur, voilà, où on remette l'humain au cœur de tout. Ça, c'est vraiment ma vocation. Donc, j'ai la sensation que pour l'instant, je suis qu'au début de ce chemin-là. Et après, je suis prêt aussi à me laisser surprendre par tout ce qui va arriver au milieu du chemin et à saisir tout type d'opportunités tant qu'elles me permettent d'agir en accord avec mes valeurs.
Mais qu'est-ce qui t'a... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet-là. Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a poussé à créer un site internet, à monter ton podcast, à vraiment sauter le pas? Parce que tu aurais pu très bien rester... à la réception d'un hôtel 5 étoiles et évoluer oui. Au sein de cet hôtel-là. Et pour autant, non, tu as franchi l'étape pour vraiment te mettre en porte-à-faux hein, et faire en sorte de communiquer sur ton savoir, mais aussi, comme tu le dis, hein, de te laisser surprendre et continuer toi-même d'apprendre.
Moi, le déclencheur, il s'appelle Covid-19, hein. C'est qu'il y a eu une crise sanitaire dans laquelle je me suis retrouvé, comme tout le monde, confiné. J'avais la chance d'avoir un jardin, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Et c'est là où j'ai posé ma réflexion. On dit que dans toute crise se cachent des opportunités, ça a été clairement le cas pour moi. C'est-à-dire que 3 semaines après le début du premier confinement, je posais les statuts de mon entreprise sans savoir si j'allais continuer ou pas. D'ailleurs, je ne sais même pas aujourd'hui, parce qu'encore une fois, je vais me laisser porter. On n'est pas complètement sorti de cette crise-là. Il va falloir voir comment est-ce que ça va évoluer. Mais je me suis dit, je veux faire quelque chose. Je veux avoir mon rôle. Et je me suis posé la question de comment est-ce que je pourrais être le plus utile à mon environnement. Comment est-ce que je pourrais transformer mon expertise, finalement, ce que j'avais acquis pendant plus d'une dizaine d'années, et le transposer pour que ça serve à d'autres personnes, avec les problématiques de la distance, de la crise confinée. Donc voilà, le digital a apporté un élément de réponse, d'où la création de contenu via du podcast, via des articles et de la vidéo. Mais tout est parti, plutôt le déclencheur était cette crise, puisque la réflexion elle était déjà bien en amont, où il fallait que je trouve quelque chose qui réponde parfaitement à mes valeurs, où je ne sois pas limité par ma présence dans une seule entreprise. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que je peux aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et toucher beaucoup plus de personnes. Et finalement, c'est l'objectif. Donc, voilà un peu c'est de là que c'est parti. Et comme je te disais, je pense que c'est qu'au début. En tout cas, l'avenir nous le dira.
Alors, tout à l'heure, on a abordé le fait qu'il fallait être curieux, même après l'école, parce qu'on est constamment en apprentissage. Est-ce que justement là-dessus, tu as des recommandations, alors que ce soit des films, des livres, des podcasts, qui pour toi t'ont aidé dans ta réflexion?
Il y en a plein. Alors, dans les livres, je vais t'en donner un que je lis en ce moment, mais qui est, je dirais, très théorique, mais il complète bien tout ce qu'on vient de dire sur l'expérience client et le luxe expérientiel. C'est un livre qui s'appelle Luxe et expérience client, donc de Widet Batat, qui est franco-américaine, je crois, qui parle de luxe expérientiel, qui en fait est plus ou moins ce que moi je raconte en luxe expérientiel, beaucoup plus positionné du point de vue du marketing, mais c'est intéressant, ça complète bien moi ma vision et mon application dans les opérations. Et mon livre de chevet, que j'ai pas complètement terminé encore, sur l'entrepreneuriat et justement le développement durable, s'appelle Confession d'un entrepreneur. Donc c'est le livre sur Yvon Chouinard, qui est le créateur de Patagonia, un homme que j'admire beaucoup. Donc une lecture que je recommande à tout le monde, qui moi m'a été recommandée, et on m'a offert son livre pour mon anniversaire, donc je le dévore avec beaucoup de passion depuis. Voilà, après, des podcasts, j'en écoute plein, il y en a plein sur tous les sujets, je pense qu'il faut un peu se laisser guider, pas forcément écouter qu'un podcast, mais un épisode par-ci, par-là, et si au contraire, après, le podcasteur que vous découvrez vous intéresse et vous remontez dans les épisodes. Moi, j'adore écouter des podcasts en faisant autre chose, du sport, de la cuisine, en me baladant. Il y a vraiment, c'est vraiment un contenu qu'on peut consommer tout le temps. Donc, je peux évidemment qu'en faire la promotion puisque maintenant j'ai mon podcast. Et une petite citation pour terminer les recommandations. J'aime beaucoup, moi, celle de Sénèque sur « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Donc, c'est important de poser, une fois, ses valeurs. Ça ne veut pas dire pas saisir les opportunités, comme on disait tout à l'heure, mais poser ses réflexions et ensuite aller dans la direction et se lancer. Et derrière, le vent ne peut être que favorable et nous accompagner dans ce voyage-là.
Donc c'est « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas
où il
va ».
Pour celui qui ne sait où il va, de Sénèque.
Très très bonne citation à méditer. Et j'ai une dernière question pour toi. Si tu peux échanger de place avec quelqu'un pour un jour ou deux, avec qui est-ce que tu le ferais ?
Très bonne question. Alors, écoute, Yvon Chouinard, dont je te parlais pour Patagonia, j'aimerais bien découvrir, mais maintenant moins, il est plus à la retraite, ça aurait été plus à l'époque des débuts de Patagonia dans les années 70, de cette époque entrepreneuriale où il était vraiment pionnier. Mais aujourd'hui, quelqu'un dont j'aimerais bien prendre la place, mais vraiment un jour ou deux, ensuite je lui rends le poste parce que c'est beaucoup trop de pression et je l'admire pour ça. C'est Sébastien Bazin, que je crois que tu connais puisque c'est le CEO d'Accord.
Moi, j'aimerais bien aussi échanger pour un jour ou deux, en fait.
Mais oui, mais au bout de deux jours, je pense qu'on serait au fond de notre lit épuisé parce que c'est une telle pression d'avoir ce type de poste, et à la fois, voilà, je suis admiratif de cette énergie, de mettre autant de vocations. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout parfaitement, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des défauts, il en a certainement plein. Mais ce que j'admire, en tout cas, c'est la puissance de travail, l'acharnement, et voilà, là, à quel point il donne de l'énergie pour représenter pas juste ses valeurs, mais tout un groupe derrière lui, plus un groupe français, et essayer de faire transpirer ça auprès de milliers et de dizaines de milliers de collaborateurs partout dans le monde. Ça, c'est quand même assez... Ça force le respect, je trouve.
Oui, et pour faire partie du groupe Accor Hotel, je vais rajouter un mot, puisqu'on parlait de l'humain et de la sincérité, et c'est vrai que Monsieur Sébastien Bazin, pendant la crise, a fait des vidéos qui ont été... regardez, en fait, envoyé pour tous les collaborateurs et les employés du groupe. Et ça faisait du bien de savoir qu'il était soucieux de l'ensemble des employés, du fait que l'on vit une situation très spécifique, très spéciale, où on ne peut plus travailler comme avant. Et à chaque fois, il finissait ses vidéos en disant « je vous aime ». Voilà, ça résume bien ce qu'est Monsieur Sébastien Bazin.
Oui, complètement. C'est un beau message. Voilà. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sincère ou pas? C'est toujours difficile à travers des images. En tout cas, je trouve que le message, il est quand même impactant, même s'il est peut-être un peu politisé derrière. Mais il reste puissant et c'est important pour des collaborateurs comme toi qui font partie d'un groupe d'entendre que le CEO, finalement, celui qui est en fer de lance, partage tout ça, il pense à vous et qu'encore une fois, il a de l'empathie. Toujours ce même mot-clé pour tous ses collaborateurs.
Super, et eh bien c'est un bon moyen de terminer cette belle conversation, Maxime. Un grand merci.
Merci à toi, Sophie. J'étais ravie de pouvoir échanger avec toi. À bientôt.
Je suis Sophie Martinez et vous pouvez me contacter à lemustpodcast@gmail.com. Merci et je vous dis à très bientôt.